France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue autour de la table ronde d'Entendez-vous l'écho, une émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Zeleflocq et mise en onde par Élise Leu. Le vendredi 9 mai, vous le savez peut-être, c'est la journée de l'Europe et en cette année 2025, c'est aussi un anniversaire, celui des 75 ans de la déclaration Schuman. Or en 75 ans, les fondements économiques, idéologiques aussi de la notion d'Union européenne ont été largement mis à l'épreuve et plus encore au cours de l'année qui vient de s'écouler.
Dans 6 pays d'Europe, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, les industries du charbon et de l'acier sont aujourd'hui liées par une solidarité de production et de travail.
Nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier. Et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent.
Dans 6 capitales, un grand dessein politique a pris corps, celui d'accomplir l'unité européenne par des voies pacifiques.
L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est. Et l'innocence, en quelque sorte, des 30 dernières années depuis la chute du mur de Berlin est désormais révolue.
Il faut une action profonde, réelle, immédiate et dramatique qui change les choses et fasse entrer dans la réalité les espoirs auxquels les peuples sont sur le point de ne plus croire. Il faut donc abandonner les formes passées et entrer dans une voie de transformation, à la fois par la création de conditions économiques de base commune et par l'instauration d'autorités nouvelles acceptées par les souverainetés nationales.
Les voix de Robert Schuman, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et Jean Monnet. De 1950 à aujourd'hui, l'Europe a fait du chemin, à surmonter un certain nombre de crises et de défis qui nécessairement ont conduit les États membres à se positionner, à faire valoir leur conception des choses et bien souvent à pousser leurs valeurs de l'échelon national à l'échelle supranationale, des valeurs qui s'incarnent dans la politique économique, protectionnisme ou ouverture à la mondialisation, redistribution ou rigueur, interventionnisme ou libre concurrence. Autant de positionnements, autant de choix qui ces derniers mois notamment ont dû être opérés entre perte de compétitivité et guerre commerciale, réarmement sur le court terme et investissement dans la transition écologique pour préparer l'avenir. Alors aujourd'hui, confrontés à des défis très divers, on l'entendait par leur nature mais aussi leur temporalité, c'est une réponse claire qui doit être obtenue et surtout une réponse unie face aux menaces. Faire front, c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour l'Union européenne. Alors quel usage peut-elle faire de la diversité théorique qui a présidé à sa construction? Existe-t-il au juste une doctrine économique européenne à proprement parler qui pourrait servir de boussole? Que nous raconte la façon dont l'Union européenne a réagi au bouleversement de ces derniers mois, de la façon dont s'est construite sa vision aussi de l'économie? Alors pour établir ces ponts entre passé pas si révolu et actualité plus récente, j'ai le plaisir de recevoir trois invités. Mathieu Dubois, cher Jean Monnet, maître de conférence à Sciences Po Rennes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'économie sociale de marché à la conquête de l'Europe » paru récemment aux presses universitaires de Rennes. Également avec nous, Laurent Varlouzet. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci. Bonjour, Aliette.
Vous êtes quant à vous professeur d'histoire à Sorbonne Université. Vous faites également partie de la chaire Jean Monnet. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance » paru aux éditions du CNRS. Et enfin avec nous, à distance depuis les studios d'ici à Strasbourg, Amélie Barbier-Gauchard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Strasbourg. Et cette liaison donc depuis Strasbourg est assurée par François-Cyril Maury et je l'en remercie. Alors Laurent Varlouzet, pour poser les bases aussi de ce dont nous allons discuter aujourd'hui, il faut revenir à la définition même de ce que pourrait, de ce qu'est l'Europe dans l'absolu. Vous dites très tôt dans votre ouvrage qu'il n'y en a pas une, mais qu'il y en a trois. Une Europe de marché, une Europe solidaire et une Europe puissance. Trois identités qui correspondent finalement à trois logiques économiques, libérales, sociales et néo-mercantilistes. Alors, une première question donc pour poser ces fameuses bases. Est-ce que la doctrine économique européenne est justement de ne pas en avoir, de ne pas avoir choisi un de ces aspects, mais d'avoir voulu combiner les trois?
Oui, en fait, bon, ça c'est mon interprétation. Dans le livre, là, je reviens sur l'histoire de la construction européenne. européenne depuis 48, à partir d'archives françaises, britanniques, allemandes et des institutions européennes. D'autres sources aussi ponctuellement, comme la Confédération européenne des syndicats. Et c'est vrai que disons que le logiciel dominant de l'Europe, c'est l'Europe du libéralisme régulé. Et ensuite, avec des éléments de solidarité, dans solidarité, je mets les aspects sociaux et environnementaux. On pourra parler des aspects environnementaux qui se développent pas mal depuis les années 80, même si ça, tout ça reste imparfait, c'est toujours des compromis. Et l'aspect puissance, là, c'est une série de projets qui sont rarement advenus. Mais l'idée, c'est que dans l'Europe, on a un répertoire d'actions peut-être qui ont été envisagées dans le passé ou qui ont même été appliquées et qui restent encore disponibles aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a une ligne dominante en termes de compromis, mais ensuite des potentialités qui restent ouvertes dans un sens ou dans un autre, dans un sens soit d'une Europe plus ultralibérale, néolibérale. Là, c'est un petit peu le sens des dernières élections avec la montée en puissance de la droite et de l'extrême droite, ou du côté d'une Europe plus socio-environnementale ou plus puissance. Pour moi, c'est une des grilles de lecture utile aussi pour comprendre aussi bien l'histoire que les choix qui nous sont offerts aujourd'hui.
Et c'est précisément ce que nous allons essayer de faire aussi aujourd'hui tout au long de cette émission jusqu'à 15h. Amélie Barbier-Gauchard, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement tout le projet économique européen depuis l'après-Seconde Guerre mondiale se résume finalement à cela, avoir créé les structures qui permettent aux grandes tendances que sont l'économie sociale, le libéralisme, le néo-mercantilisme de cohabiter de façon à produire une ligne de conduite économique commune? Est-ce que finalement la doctrine économique européenne n'en est encore une fois pas vraiment une, mais plutôt est un mélange d'une très grande diversité de courants?
Alors oui, c'est plutôt bien résumé. Il faut aussi avoir en tête que l'Europe en elle-même est le rassemblement d'une diversité de pays avec des particularités propres. Et donc, pour répondre aux défis, il faut effectivement être en capacité de puiser dans différentes doctrines, différentes leviers d'action, comme l'a déjà souligné mon collègue. Et effectivement, on peut dire que toute l'histoire du projet européen s'articule sur cette capacité à trouver les positions qui répondent aux défis. Et on voit les défis auxquels l'Union européenne est confrontée actuellement vont amener à nouveau à remettre sur la table un certain nombre de positions qui étaient peut-être pas les positions dominantes avant, mais qui vont peut-être le devenir. Bon, l'Europe a montré par le passé sa capacité quand même à s'adapter, notamment suite à la crise sanitaire. On aura probablement l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, tout le projet européen, c'est finalement un mélange de toutes ces doctrines et possibilités d'action.
Ce qui ne veut pas pour autant dire, Amélie Barbier-Gauchard, je préfère le préciser d'emblée, et notamment parce que vous avez mentionné justement les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place suite à la crise sanitaire de Covid-19, ça ne veut pas pour autant dire, cette idée de mélange, cette idée de parvenir à un compromis aussi, ça ne veut pas pour autant dire que l'Union européenne ne s'est pas dotée d'un ensemble de règles, notamment en ce qui concerne la finance, en ce qui concerne l'économie de façon plus générale et ce qui concerne évidemment sa politique monétaire. L'Union européenne, ce sont aussi des règles économiques.
Ah oui, bien au contraire. L'Union européenne s'est dotée d'un certain nombre de règles pour réguler des comportements, des situations. Mais il faut quand même souligner que le modèle européen, c'est quand même un modèle unique au monde. J'insiste souvent sur cette dimension-là. On n'a aucun autre modèle dans le monde de regroupement de cette façon de pays indépendants du point de vue du droit international et qui, malgré tout, ont réussi à avancer du point de vue de l'intégration commerciale, de l'intégration monétaire, de l'intégration budgétaire. Et donc, effectivement, les outils, c'est à la fois des outils plutôt dans le sens du libéralisme, mais parfois dans certains domaines, et notamment dans la surveillance des finances publiques, des outils très très vigilants sur la trajectoire des budgets des États membres. Donc, c'est un savant dosage en fonction des enjeux auxquels l'Union européenne fait face qui caractérise la situation actuelle. Mais il faut vraiment avoir en tête que ce modèle, c'est un modèle unique au monde. Donc on peut puiser des sources d'inspiration et peut-être on l'évoquera par la suite sur d'autres ensembles un peu similaires dans le monde. Mais c'est vrai que le modèle européen, du point de vue de ses spécificités, reste un modèle très original.
Un modèle original, mais qui ne se prive pas de dogme. On va revenir évidemment notamment sur ce fameux dogme budgétaire qu'on a commencé à effleurer à l'instant. À partir du moment où on dit que c'est une idée de construction, évidemment, on prend en compte, on va dire, les cultures aussi économiques de tous les États qui vont devenir des États membres de fait. Mathieu Dubois, il faut se poser la question de ces cultures-là, de ces cultures économiques qui préexistent aussi à la construction européenne. Or, il y en a une que vous avez particulièrement étudiée, c'est celle de l'économie sociale de marché. C'est toute la thèse que vous défendez, cette idée que cette économie sociale de marché aurait quelque part infusé au sein des frontières allemandes, des frontières ouest-allemandes, pour ensuite progressivement et selon des modalités très vastes et très complexes sur lesquelles on va revenir, mais infusé tout au long de la construction de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on entend spécifiquement, Mathieu Dubois, par économie sociale de marché et pourquoi il convient de s'y intéresser dès lors qu'on s'intéresse à la façon dont s'est construite l'Europe et notamment d'un point de vue économique?
Alors je vais abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit en fait, parce que je vais partir de là, parce que effectivement c'est l'idée que c'est ce qui est passionnant avec l'histoire de la construction européenne, c'est que c'est un projet assez original et en construction en plus, et qui relève effectivement d'un compromis entre différentes idées, différentes courants politiques, différentes doctrines économiques, mais aussi différentes cultures politiques nationales, différents intérêts nationaux. Et c'est ça qui rend le jeu à la fois politique, diplomatique, particulièrement passionnant. Et tout au long de cette histoire, c'est pas une histoire qui est figée. C'est une histoire qui bouge, qui est régulièrement en mouvement, où il y a des équilibres qui changent au gré aussi des transformations différentes du monde. Et dans cette histoire, ce que j'ai essayé de travailler, c'est justement ce concept d'économie sociale de marché qui, par contre, et comment ce concept si intéressant et important pour l'histoire de la construction européenne est entré dans les textes européens. L'économie sociale de marché, depuis en fait le traité de Lisbonne, est officiellement en fait l'objectif, l'enjeu, 2007, oui. Voilà, de 2007, qui est l'enjeu, l'objectif de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va construire cette société européenne. On va la construire en créant une économie sociale de marché. Et cette économie sociale de marché, c'est pas quelque chose de neutre. C'est pas un concept qui arrive comme ça, qui serait même mondialisé ou etc. C'est un concept qui est très particulier parce que c'est un concept construit par une société nationale, dans une culture politique nationale, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, hein, depuis les années 1940-1950. Et ce modèle évolue dans le cadre de la construction européenne. C'est pas la même chose d'avoir l'économie sociale de marché en Allemagne ou l'économie sociale de marché en Europe. Et peut-être l'économie sociale de marché du 21e siècle finissant sera une autre économie sociale de marché que celle d'aujourd'hui. Tout ça n'est pas figé. Mais il n'en reste pas moins qu'il est intéressant et important d'étudier les origines de ce concept et des idées, en fait, qui sont au cœur, en fait, d'un certain nombre de règles et d'objectifs de notre construction européenne.
Et justement, à cet égard, Mathieu Dubois, parce qu'il est important pour comprendre la construction européenne, de comprendre précisément ce qu'est ce concept d'économie sociale de marché. Vous l'avez dit, il se construit ce concept-là à l'intérieur des frontières ouest allemandes, et puis même un petit peu avant que soit vraiment mis en place une forme de projet européen, avant même l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est un héritage aussi en termes de théorie, un héritage en termes de pensée, notamment vis-à-vis de l'ordolibéralisme. Alors là, ça nous emmène encore plus loin, mais je reprends là les mots de votre ouvrage. Vous dites qu'il s'agit... Très tôt, c'est conceptualisé comme une troisième voie finalement entre capitalisme et socialisme, tout en cherchant évidemment à se démarquer de la façon dont le nazisme avait pris en compte aussi les questions économiques. Finalement, l'économie sociale de marché est elle-même le fruit d'un compromis national.
Oui, voilà. C'est en fait, l'idée d'économie sociale de marché naît principalement de l'impossibilité, après 1945, de défendre le rétablissement d'une économie libérale. Après 1929 en particulier, et puis après les années 30, c'est extrêmement difficile. Donc il faut créer un nouveau concept, et c'est tous ces courants, en fait, de renouveau du libéralisme des années 1920-1930 qui vont inspirer ce concept, en particulier les ordolibéraux, l'école de Fribourg en Allemagne et d'autres, qui vont progressivement en fait définir l'idée de ce renouveau libéral qui ne s'appuie plus simplement sur l'idée d'un laissez-faireisme complet, mais d'un rôle particulier en fait à jouer pour l'État dans l'économie, non pas du point de vue interventionniste, mais pour justement essayer de faire en sorte de fixer un cadre, des règles et en particulier un ordre, d'où l'idée de ordo-libéralisme ici. Et cette économie sociale de marché, elle va s'inspirer de cette doctrine ordo-libérale, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça ne s'y limite pas. C'est-à-dire que elle va être reprise notamment par la CDU, hein, le parti à l'époque vient d'être recréé, le parti qui est celui du nouveau chancelier allemand qui vient d'être désigné, Friedrich Merz. Et cette doctrine, en fait, va être reprise, mais simplement partiellement, et surtout amendée avec l'idée du social dedans. C'est-à-dire qu'on remet de l'économie de marché, mais avec une dimension sociale. Alors, c'est à la fois, vous voyez, une dimension politique, de propagande politique pour essayer de remettre les idées libérales à flot dans les années 1940-1950, mais c'est aussi cette dimension sociale, l'idée de, par exemple, de protéger le consommateur par le cadre de la concurrence. Ça peut être aussi l'idée d'intégrer tout l'État social bismarckien qui préexistait aussi en Allemagne. Donc l'idée qu'en fait il ne puisse pas y avoir uniquement un laissez-faireisme libéral, c'est cette idée qui prime dans le succès en fait de l'économie sociale de marché qui amène le miracle économique allemand des années 50.
Laurent Varlouzet, on est là à une forme de genèse finalement aussi de ce qui construit l'Europe en termes de doctrine économique. Il faut peut-être là nuancer les choses ou en tout cas alerter aussi. C'est une version, c'est une vision allemande, c'est ce capitalisme rhénan aussi qui est très fort. Ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'il est extrêmement défendu, ce n'est pas parce qu'il est très fortement constitué aussi d'un point de vue théorique, qu'il est prédominant dans la construction européenne. Les Français ne pensent pas pareil, la Grande-Bretagne ne pense pas pareil. On ne peut pas dire que ce capitalisme rhénan-là soit majoritaire dans l'absolu au moment de la construction européenne.
En fait, ça dépend des époques et puis ça dépend aussi des personnes. Donc, on a des Français qui sont complètement séduits par le modèle, d'autres non. Et même en Allemagne, quand on voit les archives, il y a aussi des différences entre Ludwig Erhard, le ministre d'Adenauer, qui était plus libre-échangiste, qui était d'ailleurs contre la construction européenne parce qu'il trouvait que c'était un cadre trop restrictif, trop français, trop dirigiste, trop protectionniste. Et puis, on a eu un peu Otto von Lambsdorff, un peu qui était sur la même ligne après. Et puis d'autres, comme Willy Brandt, qui défendait une Europe sociale, environnementale. Il y a des positions différentes, mais je pense que c'est important effectivement de mettre en valeur. Il y a quand même des cultures nationales, en fait, c'est ce que montre Mathieu Dubois, avec disons des philosophies. Et puis ce que disait Mathieu aussi un petit peu au début, c'est que ça se traduit aussi dans des modes d'action, quoi. C'est-à-dire que nous en France, on est un État centralisé, même si on a des centralisations depuis 82, on voit bien même encore aujourd'hui comment on fonctionne. Pendant la crise du Covid, par exemple, quand on discutait avec nos amis allemands, ils étaient toujours étonnés parce que voilà, le président arrive, déclare le confinement et voilà, le jour d'après, c'est le confinement partout en France, sans aucune exception. Alors qu'en Allemagne, il y avait des discussions au niveau des Länder, c'était que voilà, bon.
C'est un État fédéral qui change.
Voilà, et donc du coup, ce que montre bien Mathieu, c'est que du coup, les Allemands aussi se sont plus facilement moulé dans l'Union européenne, qui est aussi une structure assez compliquée, polyarchique. Et nous, on comprend mieux le Conseil européen, là, parce qu'il y a des chefs d'État. Donc nous, on arrive à faire des beaux discours, à prendre des initiatives qui marquent. Peut-être plus, on a une structure aussi gouvernementale qui est mieux coordonnée. Alors que les Allemands, c'est assez connu que les ministres se disputent entre eux. Bon, c'est moins bien coordonné. Mais du coup, ils comprennent mieux aussi le système multiniveau de négociation permanente bruxelloise, notamment les négociations au Parlement. Nous, on a mis longtemps à comprendre qu'il fallait aussi influencer le Parlement. Il fallait pas juste parler au chancelier allemand ou au président de la Commission.
Là, c'est en termes de culture politique que vous parlez. Ce qui n'est pas sans lien effectivement avec la culture économique. Vous parliez de ce personnage qui a beaucoup marqué de fait la construction européenne, Ludwig Erhard, qui est considéré par ailleurs comme le père de l'économie sociale de marché. Au moment où Erhard de fait incarne ce personnage-là, qui écoute véritablement cette possibilité de l'économie sociale de marché? On a parlé du néo-mercantilisme français. Mmh. Est-ce que le néo-mercantilisme français, par exemple, est vraiment en contradiction avec cette économie sociale?
Oui, en fait, il y a des différentes modalités. Alors, le néo-mercantilisme, donc, c'est, disons, la politique industrielle dirigiste. Hein, c'est un petit peu ça. Et ce que je montre dans mon livre, c'est que jusque dans les années 80, il y avait aussi une politique industrielle allemande qui avait le même niveau d'intervention dans l'économie, mais qui était beaucoup plus décentralisée, beaucoup moins visible. Alors que nous, au contraire, quand on intervenaient dans l'industrie, on le montrait avec force ce discours, jusqu'en 81. Et puis là, ensuite, bon, ça a décliné, mais aujourd'hui, si vous regardez les statistiques en termes d'aide par habitant, l'Allemagne est redevenue parmi les pays qui aident le plus leur industrie, hein, plus que la France, très récemment. Hein. Donc, c'est lié aux difficultés de l'industrie allemande. Et puis, les deuxièmes, c'est les Hongrois. Donc, vous voyez, les choses évoluent entre, je dirais qu'il y a des cultures politiques dominantes et économiques dominantes qui sont des réalités. C'est des mythes à la fois, au sens où c'est exagéré, mais en même temps, tous les mythes ont quand même une part de réalité. Donc, ça permet aussi, c'est une grille d'explication qui fonctionne. Et après, il faut l'adapter en fonction des individus, des acteurs et des époques. Et alors, si je reviens juste brièvement sur 1950, comme là, vous l'avez dit, c'est le 75e anniversaire, donc aujourd'hui, de la déclaration Schuman. On a entendu tout à l'heure Schuman et Monnet. Et voilà, pour eux, bon, pour Schuman, c'était l'idée des solidarités, solidarité de fait, il en a parlé, mais c'est Monnet qui a rédigé la déclaration Schuman. Et l'idée, elle était politique, donc vraiment de se lier avec l'Allemagne de manière un peu consubstantielle, structurelle. C'est cette idée de solidarité de fait pour qu'on ne se fasse plus la guerre et qu'il y ait une espèce d'obligation de s'entendre. Et après, le modèle économique, j'ai parlé un peu de libéralisme régulé. Pour moi, c'est du libéralisme avec des éléments un peu sociaux. Alors, pas environnementaux à l'époque, et un peu de politique industrielle. Dans la CECA qu'avait promu Jean Monnet, il y avait des aspects, quelques aspects sociaux, et puis beaucoup d'aspects industriels, hein, de politique industrielle commune. Donc ça n'a pas été appliqué, finalement, on s'est contenté de faire un marché, parce que bah, d'un côté, les Allemands, comme l'a montré Mathieu, étaient sur une optique peut-être un peu plus libéral, même si à l'époque, ils étaient quand même encore assez interventionnistes. Et puis, même du côté français, en fait, on ne voulait pas non plus donner trop de pouvoir à la CECA. Donc, c'est-à-dire que pendant longtemps, les Français, c'est ce que je montre dans mon livre, ont défendu l'Europe sociale, l'Europe industrielle dans le discours, mais les gouvernements ne soutenaient pas. Donc, Jacques Delors, par exemple, a lancé beaucoup de projets d'Europe sociale, de politique industrielle européenne. Et bon, à Paris, on soutenait dans le discours, mais après, on voulait pas non plus donner trop de pouvoir à la Commission, on se méfiait de Bruxelles. Donc, et bon, pour des raisons justifiées, hein, c'est pas à moi de le dire, mais si vous voulez, il y avait une contradiction entre le discours de Paris et le discours de Bruxelles. Si je reviens aussi sur le traité de Rome, qui est notre traité actuel, enfin l'origine du traité de Lisbonne, il y avait quelques clauses sociales, notamment dedans, parce que il avait été négocié sous Guy Mollet, le président du Conseil socialiste. Bon, après, De Gaulle arrive au pouvoir, ça intéresse plus vraiment, pour des raisons politiques, et aussi parce que, pour tous ces États, la politique sociale, l'État-providence, de toute façon, ça se fait au niveau national. Donc l'Europe, elle chacun est là plutôt pour réguler le commerce que pour s'occuper de prérogatives nationales.
C'est très intéressant, ça, Amélie Barbier-Gauchard, cette idée d'une Europe régulatrice en première instance, cette idée voilà, que c'est avant tout à cela qu'elle sert. Mais en même temps, Laurent Varlouzet a parlé d'un autre élément beaucoup plus d'actualité, cette idée que face à des grandes difficultés que connaît son industrie, l'Allemagne a elle-même changé un petit peu de doctrine. Elle est venue renforcer, on va dire, une forme d'interventionnisme, en tout cas manifester son pouvoir ainsi aussi auprès de ses industries, auprès de ses entreprises en grande difficulté. C'est ce qu'on a vu tout au long de ces derniers mois. Est-ce que ça, de votre point de vue d'économiste, Amélie Barbier-Gauchard, c'était une surprise? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre quelque part à ce que l'Allemagne, de fait, dégaine un certain nombre d'outils qui ne rentraient pas forcément dans ce à quoi elle nous avait habitués jusqu'ici?
Alors, sur la stratégie générale de l'Europe et ce souhait de réguler, il faut quand même signaler que, alors bon, c'est beaucoup plus récent, mais à partir des années 2000, il y a une vraie volonté d'avoir une stratégie de soutien à la croissance et l'emploi. Ça, il faut vraiment le dire, avec la stratégie Europe 2020, qui mettait en avant des objectifs socio-économiques pour l'Union européenne dans son ensemble. Alors c'était l'une des premières mesures vraiment officielles d'une stratégie coordonnée qui ensuite a été renouvelée avec la stratégie de Lisbonne, et puis on voit finalement que le plan de relance européen Next Generation EU a poursuivi dans cette lignée. Mais c'est vrai que il y a eu d'autres dimensions que le soin le souhait de réguler notamment les enjeux industriels. Alors, c'est des questions qui reviennent d'actualité, hein, puisque la question de la désindustrialisation est aussi au cœur des discussions actuelles. Et notamment, hein, ça a été remis aussi au goût du jour avec le rapport L'État qui est paru en avril 2024 et le rapport Draghi ensuite, hein, qui a fait suite en septembre. Là, on attend avec impatience les propositions de la Commission, hein, qui doivent arriver avant l'été. Les propositions de stratégie pour mettre en œuvre ces grandes directions. Et puis, c'est vrai que ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, bah, finalement, ça ne fait qu'accélérer ce besoin de davantage de coordination, de stratégie commune. Alors évidemment, ça va aussi reposer la question, et c'est pour ça que l'histoire est vraiment riche d'enseignements, des intérêts de chaque pays à aller dans le sens de cette stratégie commune. Et on voit bien que ce soit sur les questions commerciales ou même les questions d'industrie de la défense, hein, les intérêts stratégiques des différents pays peuvent assez fortement diverger. Donc voilà. Et finalement, par le passé, le même genre de phénomène a pu se produire. Et sur la question de la dimension socio-économique de l'Europe, il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire. Mais bon, c'est vrai que désormais, il y a 27 États membres dans l'Union européenne. Oui. L'Union européenne est désormais beaucoup plus hétérogène qu'elle l'était au moment de sa construction. Alors, ça peut être à la fois un atout, si on sait valoriser cette diversité, ou un handicap. Et donc, vous parliez au démarrage d'une cohabitation entre différentes doctrines économiques et positions politiques. Bon, il faut aussi évoquer la diversité économique de ce qu'est l'Union européenne à l'heure actuelle, hein. Nous, on parle traditionnellement d'hétérogénéité structurelle, c'est-à-dire que l'Union européenne a 27 désormais. C'est quand même des pays avec des fonctionnements qui peuvent être particulièrement différents en termes de fonctionnement de marché du travail, en termes de structure démographique, en termes de spécialisation industrielle. Et donc, ces questions, ce que révèle l'histoire des intérêts politiques et des positions politiques divergentes des États, à l'heure actuelle, c'est malgré tout amplifié. Mais rien que d'un point de vue économique, on est face à cette réalité qu'on a une Europe hétérogène. Alors, l'ambition de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la convergence, hein, la convergence économique, notamment en termes de niveau de richesse de chacun des pays. Mais ce qui contribue aussi à cette hétérogénéité, c'est les spécialisations productives. Et la situation actuelle qui à laquelle on fait face, hein, cette guerre commerciale, ces besoins de réindustrie, de réarmement, ça peut permettre à l'Union européenne de faire de cette diversité des spécialisations productives une richesse et un moyen de prendre le tournant, de répondre de façon stratégique aux défis qui sont posées. Donc voilà, ces postures politiques différentes, elles restent présentes, et j'ai même envie de dire de façon amplifiée, quoi.
Et de fait, les tourments, on va dire, actuels, alors que ce soit ceux liés à la guerre commerciale, mais même à un mouvement plus long que vous évoquiez à l'instant, Amélie Barbier-Gauchard, celui d'une désindustrialisation qui touche un certain nombre de pays, et au premier rang desquels on trouve bien sûr l'Allemagne, pose la question de comment faire front face à cette hétérogénéité. De ce point de vue-là, Mathieu Dubois, et comme ça on aura bouclé aussi cette genèse-là aussi, et comprendre comment tout cela s'est mis en place. On a parlé de la CECA, de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. L'idée, c'est quand même de mettre en place une forme d'interdépendance économique, très concrètement, entre les pays qui en font partie. Ça, comment c'est vécu du côté de l'Allemagne de l'Ouest, de la RFA? Est-ce que c'est vu cette idée d'une interdépendance qui permettrait de fait une première forme d'union d'un point de vue économique, du point de vue de la théorie économique? Est-ce que ça rentre dans ce prisme-là, alors à la fois des ordolibéraux qu'on a commencé à évoquer, et puis de fait de ceux qui les portent, à savoir cette fameuse économie sociale de marché?
Oui, mais l'idée principale côté allemand, et qui est centrale à la fois pour l'économie sociale de marché et puis pour l'ordolibéralisme aussi, c'est l'idée qui est centrale de fait dans l'histoire de l'intégration européenne, c'est l'idée d'intégration, justement. Et de faire en fait de l'Europe, du continent européen le plus large possible, un des piliers de l'intégration mondiale. C'est-à-dire que c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans ce qui va devenir la mondialisation accélérée. Et c'est vraiment une des idées centrales, c'est-à-dire de faire en sorte que non seulement la communauté européenne, mais chacun des pays qui la composent deviennent le cœur hein, de cette mondialisation. Et donc ça suppose en particulier de faire des spécialisations, de multiplier les interdépendances et puis d'ouvrir cette communauté. Alors là aussi, c'est là qu'on voit les intérêts différents. L'Allemagne fédérale disons, a été traditionnellement marqué par un modèle exportateur. Bon, on peut revenir
sur... Et le fait de lui redonner raison, au moins dans un premier temps. Il a rapidement une balance commerciale relativement excédentaire.
Oui, mais je dirais que l'objectif, du coup, pour l'Allemagne, c'est aussi de faire de l'Europe un continent et un projet exportateur. Et donc, de faire en sorte que ses voisins aussi s'ouvrent et puis ouvrent les autres. Et on voit bien que c'est une réponse qui est récurrente, systématique. Ça va assez marcher parce que finalement, quand on regarde les taux d'ouverture des pays européens aujourd'hui, ils sont tous parmi les premiers mondiaux. Mais ça va aussi marcher vis-à-vis, je dirais, aussi des relations entre la communauté européenne et puis l'extérieur. C'est l'idée de multiplier les accords commerciaux et, je dirais, des accords qu'on a pu avoir avec l'Association européenne de libre-échange, l'Europe du Nord, jusqu'au Mercosur aujourd'hui. C'est à peu près toujours la réponse systématique aux crises faites par l'Allemagne. Ouvrons-nous au monde.
Ouvrons-nous au monde, une volonté affichée, mais qui malheureusement se heurte à un principe de réalité. C'est ce qui s'est passé depuis le 20 janvier dernier, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir. Et les choses se sont ensuite rapidement enchaînées.
Les consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique ont bénéficié de prix réduits. Les entreprises ont bénéficié d'opportunités considérables, ce qui a conduit à une croissance sans précédent. Mais je veux aussi être clair. Le recours aux droits de douane, comme alpha et oméga, ne résoudra pas le problème. Nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier, et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent. En tant qu'Européens, nous promouvrons et défendrons toujours nos intérêts et nos valeurs et nous défendrons toujours l'Europe. Je voudrais m'adresser directement aux Européens. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont déçus par notre plus vieil allié. Oui, nous devons nous préparer à l'impact que cela aurait inévitablement. Nous sommes solidaires. Si vous vous en prenez à l'un d'entre nous, vous vous en prenez à nous tous. C'est pourquoi nous resterons unis et nous nous défendrons les uns les autres. Notre unité est notre force. L'Europe possède le plus grand marché unique du monde. 450 millions de consommateurs. C'est notre havre de paix en ces temps tumultueux.
Amélie Barbier-Gauchard, on entendait là à l'instant Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, s'exprimer le 3 mars dernier en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump. On retrouve beaucoup d'éléments qu'on vient d'évoquer avec Laurent Barjouzet et Mathieu Dubois, qui sont eux historiens. On retrouve cette idée d'un marché comme un havre de paix, d'une Europe aussi très tournée vers la mondialisation. Dans quelle mesure cette annonce d'une riposte par Ursula von der Leyen se situe en rupture finalement de cette vision-là? Dans quelle mesure... Bon, il y a eu à la fois cette idée de riposte, à la fois cette idée de négociation, ça traduit aussi le comportement européen, on va dire, vis-à-vis de l'ouverture commerciale.
Alors, peut-être qu'il faut commencer par rappeler que, bon, ce que fait à l'heure actuelle Donald Trump en multipliant les mesures protectionnistes et en menaçant de droits de douane élevés, en fait, Joe Biden avait déjà un peu commencé dans ce sens-là, hein, notamment avec le CHIPS Act, qui est cette mesure américaine pour ramener sur le sol américain la production de semi-conducteurs pour moins dépendre des autres pays, l'Inflation Reduction Act. Donc, il y a déjà eu cette tendance, alors qui effectivement ne se manifestait pas par davantage de droits de douane, donc cette guerre commerciale, mais cette tendance qui était de ramener sur son territoire sa production au détriment des échanges commerciaux, c'est quand même une tendance qui avait démarré avant, pour d'autres raisons. Donc là, en l'occurrence face à la réaction de Donald Trump. Donc effectivement, les États-Unis, c'est le premier partenaire commercial de l'Union européenne, à la fois pour les exportations et le deuxième partenaire pour ses importations. C'est la Chine hein, qui est le premier partenaire de l'Union européenne. Donc là, ce qui est annoncé par, par Ursula von der Leyen, c'est bah, des mesures de riposte, hein, ce qui est tout à fait naturel. Alors, ce qui est important quand même de savoir, c'est pour quel type de biens l'Union européenne dépend fortement des États-Unis.
C'est ce que je voulais vous demander, Amélie Barbier-Gauchard, d'autant voilà. Que ça reboucle avec notre question autour de la réindustrialisation et de la spécialisation des pays.
Oui, on va vite revenir finalement à cet enjeu de la réindustrialisation, parce que finalement tout est étroitement intriqué, parce que en effet les principaux biens importés par l'Union européenne depuis les États-Unis, c'est bah, des produits pétroliers, des produits médicaux et pharmaceutiques, et machines, équipements de production d'électricité. Donc effectivement, on est assez dépendant des États-Unis pour ce type de d'équipements et de produits. Et vous pouvez remarquer que parmi ces produits, on évoque bah, les la production médicale et pharmaceutique, qui sont des sujets sur lesquels dont on a déjà parlé, notamment au moment de la crise sanitaire, en lien avec ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Donc, qu'il y ait eu ou pas ces mesures Trump de guerre commerciale, finalement, on parle de secteurs d'activité pour lesquels il y avait déjà des défis à relever et l'Union européenne devait probablement revoir son modèle. Donc, que la réaction immédiate de l'Union européenne soit de riposter par des droits de douane qui augmentent également, ça c'est tout à fait naturel, mais ça pose la question de la réindustrialisation de l'Union européenne dans son ensemble, et peut-être que finalement ce qui se passe à l'heure actuelle va faire accélérer ce souhait d'atteindre, de se rapprocher de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, c'est-à-dire ne plus dépendre du reste. Alors, le reste du monde, c'est le reste des pays en dehors de l'Union européenne, pour certains biens stratégiques. C'est exactement ce qu'ont fait les Américains avec Joe Biden pour les semi-conducteurs.
Une autonomie stratégique, Amélie Barbier-Gauchard, qui ressemble aussi à une forme d'indépendance, et je reprends d'ailleurs là les mots de Christine Lagarde, hein, elle a appelé de ses voeux, elle a dit que ce moment-là constituait les premiers pas, on va dire, d'une forme d'indépendance de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. Ce qu'on entendait aussi dans cet extrait, Laurent Varlouzet, et c'est assez poignant quelque part aussi, cette idée des États-Unis qui sont dans une forme de rupture, alors même qu'ils étaient considérés jusqu'ici comme nos plus vieux alliés, ce sont les termes d'Ursula von der Leyen. On peut rappeler à cet égard qu'effectivement, les États-Unis étaient présents hein, au tout début de la construction européenne. C'est pour savoir comment le plan Marshall allait être réparti, coordonné, qu'est créée une première instance, l'Organisation européenne de coopération économique en 1948. Il y a un lien très fort tout de même entre États-Unis et Europe, et notamment du point de vue économique.
Oui, tout à fait. Alors là, je dirais quelques mots. Bon, si vous me permettez... Aliette, avec votre permission, je ferai un petit peu de publicité pour un autre média.
Allez-y.
J'ai donné une interview à Nota Bene sur Twitch il y a quelques jours où justement je reviens là-dessus. L'Europe est-elle américaine? L'Europe est-elle technocratique? L'Europe est-elle néolibérale? Ou voilà, là on a pu détailler un petit peu. Là je vais aller vite. Effectivement, donc, alors ce qui est intéressant dans l'extrait de von der Leyen, c'est que elle utilise l'expression française, notre plus vieil allié. C'est ce qu'on dit nous en général, parce qu'on a toujours été alliés des Américains, parce qu'on les a aidés à devenir indépendants contre les Anglais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que von der Leyen parle bien français, parce qu'en fait, elle était à l'école européenne à Bruxelles. Elle était la fille du chef de cabinet du premier commissaire allemand, Hans von der Groben, dont Mathieu parle aussi, puisque c'était un des représentants de l'économie sociale de marché. La question est vraiment très importante sur le fond. Rupture ou pas, en fait, avec les États-Unis et aussi avec le logiciel européen libre-échangiste. Je crois que c'est ça les deux questions. Bon, pour moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a vraiment une rupture avec Trump. Au sens où il y a un irrespect des règles, hein, aussi bien en interne, irrespect de la démocratie libérale avec les contre-pouvoirs, qu'en externe, irrespect des règles, du compris du multilatéralisme, dont le monde entier, en fait, accusait les Américains de profiter. C'est-à-dire que le monde entier disait les Américains profitent des institutions multilatérales qu'ils ont largement contribué à façonner en 1944-1945, l'ONU, le FMI, la Bird, enfin toute l'OMC par la suite, enfin le GATT puis l'OMC, et les États-Unis, en fait, jettent tout ça à la poubelle. Donc bon, c'est vraiment très très étonnant, mais je pense que ça, c'est deux ruptures quand même fondamentales. Il y a déjà eu des tensions protectionnistes avec les Américains, c'est vrai, notamment sous les, avec les présidents républicains, donc Bush Junior, Reagan, Nixon, même dès Kennedy, Johnson, il y avait eu la guerre du poulet. Bon, enfin bon. Donc il y a eu des tensions commerciales, mais là, c'est vrai qu'il y a cette double rupture qui peut se synthétiser par voilà une rupture, un irrespect des règles, un illibéralisme au sens politique quoi finalement. C'est le retour au laisser-faire dont parlait Mathieu, hein, c'est la loi de la jungle. Et juste sur le deuxième aspect, rupture avec le logiciel européen libre-échangiste, comme l'a dit Mathieu, effectivement, les Allemands ont beaucoup poussé pour une Europe exportatrice, parfois jusqu'à l'excès. Donc l'exemple qui est souvent cité, c'est les panneaux solaires. On a laissé l'industrie européenne des panneaux solaires être complètement laminée par la concurrence chinoise sans réagir hein, au début des années 2000. Alors là, les Allemands reviennent un petit peu en arrière, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que les Allemands qui sont exportateurs. La déclaration Schuman, c'est Jean Monnet. Jean Monnet, c'est le commissariat au plan. Et Jean Monnet, dans le commissariat au plan, justement, dit il y a un impératif exportateur. Pour une raison simple, la France, elle doit être une grande puissance industrielle. Et on ne peut pas être une grande puissance si on est autarcique. Notamment la France, on manque de pétrole, on manque de charbon. On était dépendant de l'extérieur, on l'est toujours d'ailleurs. Donc on doit être exportateur. Et notamment, c'est pour ça que l'agriculture est reconstruite sur une base industrielle pour pouvoir devenir un secteur exportateur. De Gaulle aussi. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle, il n'y aurait pas eu l'Union européenne. C'est lui qui permet à le traité de Rome d'être appliqué. Et il le fait, il explique, on le voit dans les archives et il le dit très bien dans ses mémoires, contre les milieux industriels, certains qui étaient en majorité protectionnistes, en fait, pour leur donner un petit coup de fouet. Bon, c'était. Mais pour Monnet comme pour de Gaulle, l'Europe, justement, c'est à la fois du libre-échangisme, mais je l'ai dit, du libre-échangisme régulé. C'est pas la loi de la jungle. On est dans un cadre où on a quand même des protections, notamment pour l'agriculture, etc., etc. Et après, on est passé par des périodes beaucoup plus libérales, mais ça persiste, parce que là, il y a des négociations, vous parliez de von der Leyen, quelle riposte à Donald Trump, et qu'est-ce qu'on lit dans la presse, que dans le camp de ceux qui ne veulent pas trop provoquer Donald Trump, on a les Français, parce que nous, on veut préserver nos marchés de produits, notamment les alcools qu'on vend aux États-Unis. Donc, c'est vrai que voilà, les Allemands sont plus libre-échangistes que nous, mais nous aussi, on est libre-échangistes, parce qu'on a besoin d'exporter, en fait.
Mathieu Dubois,
mais moins que les Allemands, voilà.
Mathieu Dubois, cette contradiction aussi, cette tension vis-à-vis d'ouverture vis-à-vis du reste du monde, et puis cette idée d'un retour à une forme de protectionnisme, en tout cas de se protéger dans la mesure du possible, voire qui pourrait prendre une autre forme aujourd'hui, on le disait, celui d'une idée d'une indépendance aussi stratégique, d'une forme de souveraineté retrouvée. Il y a un autre personnage que je voudrais évoquer avec vous, parce qu'il est important, il a compté aussi, même si on en parle souvent beaucoup moins dans l'histoire de la construction européenne, c'est Johan Willem Bayon, qui est le ministre des Affaires étrangères néerlandais, qui a fait partie, on l'apprend dans votre ouvrage, de la Société du Mont Pèlerin. Il est à l'origine du plan Bayon de 1953. Là où aussi la question était présente, cette idée de à quel point on s'ouvre, cette idée d'une union douanière aussi. Pourquoi est-ce que c'est un moment important aussi ce plan Bayon sur la façon dont on conçoit ce que doit être l'Europe et ce que doit être le commerce à l'européenne?
Mais en fait, ce plan, c'est un petit peu le plan originel, je dirais, qui lance les grandes négociations qui vont aboutir ensuite au traité de Rome en 1957, et donc au marché commun. Et donc là, c'est vraiment un moment moteur décisif. Mais ce plan, finalement, il est aussi un plan néerlandais, c'est pas pour rien, parce que il reprend un certain nombre de grandes idées qui ont été mises en place, en particulier du côté du Benelux, mais aussi, et c'est là que c'est intéressant sur l'histoire longue, ça reprend des idées d'union douanière, en fait, qui ont présidé à l'histoire européenne bien avant, et en particulier à l'unité allemande, hein, l'idée du Zollverein au XIXe siècle, qui a présidé à la construction de la nation allemande bien avant Bismarck, hein, puisque c'est 1834. Mais donc, on a cette idée, en fait, que par la création d'interdépendances économiques, on va arriver à créer, en fait, du politique. Et ça, c'est vraiment l'élément central de ce plan Bayon, qui reprend d'autres idées. C'est vraiment des idées qui sont très présentes depuis plus d'un siècle à ce moment-là, un siècle et demi même, dans la littérature économique, chez Liszt ou d'autres, hein, depuis le 19e siècle, et qui vont être reprises pour créer cette communauté européenne, mais avec une idée supplémentaire, qui est qu'on ne va pas se contenter d'une union douanière, il faut aussi, pour que tout ça aille dans le même sens, qu'on crée une politique économique. C'est pas seulement une union douanière, il y a aussi une dimension, il faut faire de la convergence, et cette convergence, elle doit être mise en place par ce qui est très bien étudié, en particulier Laurent Varlouzet, c'est-à-dire la politique de la concurrence qui doit être centrale dans cette politique-là.
Et Laurent Varlouzet.
Et pour dire, et aussi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est aussi des règles communes. C'est pour ça qu'on est dans un marché commun avec des règles communes, et pour avoir des règles communes et pour qu'elles soient appliquées, du coup, il faut des institutions assez fortes. C'est pour ça que Jean Monnet parlait d'autorité commune, parce que si vous faites juste un accord de libre-échange sans règles communes, vous savez pas si l'autre va respecter les mêmes règles de concurrence sociale, environnementale. Donc c'est pour ça qu'on a ces institutions, et c'est ce qui fait et si on utilise bien ces institutions et qu'on est unis, c'est ce qu'a dit von der Leyen, ça fonctionne bien, c'était pendant la négociation du Brexit, mais si on se dispute, ça fonctionne pas, et c'est ce qu'essaie de faire Trump en essayant de nous diviser.
Des règles communes qui fonctionnent au niveau commercial, mais qui fonctionnent aussi, qui valent aussi pour le niveau budgétaire, c'est ce qu'on a pris, ce dont on a pris conscience récemment.
Emmanuel Macron, le 5 mars 2025.
À Bruxelles demain, lors du Conseil extraordinaire qui réunira les 27 chefs d'État et de gouvernement avec la Commission et le président du Conseil, nous franchirons des pas décisifs. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. L'Europe de la défense, que nous défendons depuis 8 ans, devient donc une réalité.
Friedrich Merz, le 4 mars 2025.
Wir wissen aber auch, dass die Mittel für unsere
Nous savons que les ressources pour notre défense nationale doivent être maintenant significativement augmentées. Les décisions exigées par le budget fédéral ne peuvent plus être plus longtemps repoussées, surtout après les décisions récentes du gouvernement américain. La coalition entre la CDU, CSU et le SPD va soumettre une loi au Bundestag la semaine prochaine pour amender la loi fondamentale. Pour que les dépenses nécessaires de la République fédérale d'Allemagne, qui sont au-dessus de 1% de notre PIB, soient exemptées des restrictions du frein à l'endettement. Je veux être très clair. Compte tenu des menaces sur notre liberté et sur la paix de notre continent, nous devons augmenter notre budget, quoi qu'il en coûte.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. 75 ans après la déclaration Schuman, entendez-vous l'écho remonte aux origines des débats qui ont construit l'Europe, l'occasion de comprendre la façon dont chaque État membre a défendu des visions économiques à la fois théoriques et pratiques différentes, soit autant de façons d'aborder les crises et de fonder, de fait, le modèle européen. Amélie Barbier-Gauchard, nous sommes toujours en votre compagnie. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire Jean Monnet et professeure d'économie à la Faculté des sciences économiques et de gestion à l'Université de Strasbourg et autrice de la gouvernance économique de la zone euro, réalité et perspective, paru en 2018 aux éditions de Buck Supérieur. Alors ce nouveau, quoi qu'il en coûte, finalement, parce que c'est de cela dont on parle avec cette déclaration de Friedrich Merz, ça a beaucoup fait couler d'encre, notamment du côté allemand, lorsque le 4 mars, Friedrich Merz, leader donc de la CDU, fait cette annonce, il aurait renversé le dogme de l'austérité budgétaire. Alors est-ce que c'est vrai, Amélie Barbier-Gauchard, est-ce qu'on peut dire qu'il est allé jusque-là et peut-être nous rappeler aussi en quoi consiste ce dogme?
Alors, donc, bon, il faut quand même rappeler que le « quoi qu'il en coûte », hein, c'est une expression qui a déjà été entendue au moment de la crise sanitaire, hein, la crise du Covid.
Et même avant cela.
Et alors, pour ce qui est du dogme budgétaire, finalement, ce qu'il y a derrière ce terme, c'est ce souci de surveiller les finances publiques des États membres, et notamment ceux qui appartiennent à l'union monétaire. Donc, c'est une préoccupation qui a été introduite dès même le projet de création d'une union monétaire qui figure dans le traité de Maastricht en 92, puisque pour être un pays admissible à la monnaie unique, les États membres devaient à la fois avoir une situation macroéconomique telle que leur inflation était stable, leur monnaie était stable, leur taux d'intérêt de long terme était stable également, mais aussi leurs finances publiques devaient présenter des caractéristiques, un déficit en dessous des 3% et une dette qui ne devait pas dépasser les 60%. Donc ces critères de surveillance des finances publiques, il faut rappeler quand même que à l'origine, ce sont des critères d'admissibilité à l'union monétaire. Et donc une fois qu'un pays entre dans l'union monétaire, eh bien, il est soumis à d'autres règles. Et donc, cette règle du 60% et du 3%, elle s'est traduite dans ce qu'on a appelé ensuite le pacte de stabilité et de croissance, qui finalement fixe la règle de surveillance des finances publiques à partir du 1er janvier 1999 pour les pays qui entrent dans la zone euro, qui ont été considérés comme admissibles. Et dès lors qu'un pays entre dans la zone euro, il doit présenter des finances publiques qui ne dépassent pas 3% du déficit.
Peut-être Amélie Barbier-Gauchard, comme nous sommes en train de poser ces bases-là, peut-être Mathieu Dubois sur l'importance de ces critères. Et puis peut-être encore une fois, est-ce qu'il faut y voir, alors non pas un vaste complot, mais peut-être au moins l'influence allemande de ce côté-là, cette idée d'une forme de rigueur budgétaire à travers ce pacte de stabilité notamment?
Oui, non, il n'y a pas du tout, absolument pas de complot. Tout ça est une négociation, un compromis, une discussion. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, effectivement, du pacte de stabilité, des critères de Maastricht, etc., il y a aussi une négociation, en particulier franco-allemande, mais aussi avec d'autres, autour de l'idée d'une solidarité, en fait, sur la monnaie, et de l'autre, sur une solidarité, sur l'idée de la lutte contre l'inflation, de l'alignement sur une politique économique, en échange d'une solidarité monétaire. Et en fait, il y a un élément central qui, à mon sens, est très important de bien comprendre, notamment pour du point de vue des Allemands et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ce qui compte pour le gouvernement allemand, mais aussi pour la Bundesbank et pour les ordolibéraux, etc., c'est qu'il y ait un principe. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui est celui de la stabilité. Il faut que la communauté européenne soit une communauté de stabilité qui se fixe des règles budgétaires pour, en fait, éviter que, pour telle ou telle raison de gouvernement politique, ou bien il y ait des dépenses qui soient incontrôlées, des dépenses de type structurel. Voilà. Ça, c'est le principe. Après, les règles, je dirais que ils y sont beaucoup moins attachés, ils en sont beaucoup moins à l'origine même. Donc il y a plus de négociations sur les règles que sur le principe.
D'où l'idée, Amélie Barbier-Gauchard, que peut-être que l'initiative de Friedrich Merz n'a pas à ce point renversé la table, alors même si d'autres pays ont suivi depuis, puis la Commission européenne, en publiant son livre blanc pour la défense, a suivi aussi finalement cette logique-là. C'est un principe n'est pas nécessairement fait pour être respecté, quoi qu'il arrive pour le coup.
Alors, peut-être juste pour terminer sur pourquoi surveiller des finances publiques dans une union monétaire, parce que effectivement, si un pays dépense trop ou dépense de façon excessive, eh bien, il y a un risque pour toute la stabilité monétaire et financière de la zone euro. Il faut pas oublier que l'euro, quand l'euro est apparu, c'était une monnaie nouvelle, une monnaie qui devait se positionner entre le dollar et le yen, donc c'était particulièrement crucial de surveiller la trajectoire des finances publiques. Alors, sur la capacité d'adaptation de la règle à des circonstances exceptionnelles. Donc, on peut quand même toutefois signaler que cette règle, elle a déjà été réformée deux fois, hein, une première fois en 2005, enfin trois fois maintenant, une première fois en 2005, une deuxième fois en 2011 et 2013, et en 2024, cette règle a été réformée justement pour être en capacité de s'adapter à ce genre de situation, aux spécificités des pays. Donc effectivement, ce qui compte, et là je rejoins mes collègues, c'est qu'une règle existe, un cadre. Cette règle, dès le départ, elle avait prévu ce qu'on appelle des circonstances exceptionnelles, ce qui fait que pendant la période sanitaire, de la crise sanitaire, eh bien cette clause a été activée, ce qui a permis pendant la crise sanitaire aux États membres de faire plus de déficit que le seuil des 3%. Et là, finalement, on est face à une autre circonstances exceptionnelles qui peut tout à fait entrer dans ce qu'est la règle actuelle, puisque la version de 2024 de la règle a été largement reconfigurée pour s'adapter aux spécificités des États. Donc effectivement, la règle pourrait permettre que les pays puissent s'endetter pour investir dans la défense. Mais peut-être préciser quand même que quand on parle de défense, et bon ça, le livre blanc sur la défense qu'a publié la Commission européenne en mars après avoir présenté Rearm EU, il souligne bien que dès lors qu'on parle de défense, en fait, on est sur finalement trois grands piliers. Il y a tout ce qui est l'équipement militaire, dont on parle beaucoup, et c'est cet équipement militaire qui va nécessiter des moyens financiers considérables. Et on voit plusieurs options existent pour financer cela. Il y a aussi la question des forces armées européennes. Il existe à l'heure actuelle déjà des forces armées européennes, hein. La force de sécurité aux frontières, la force de gendarmerie européenne. Donc il y a déjà des forces européennes. Et puis la question de la coopération, à la fois opérationnelle, capacitaire, et puis la coopération industrielle. Et finalement, la pierre d'achoppement, ce qui va être au cœur des débats, c'est la coopération industrielle. Puisque si la décision est prise de produire massivement dans l'espace européen de l'équipement militaire, on sait très bien à l'heure actuelle qu'il n'y a qu'un petit nombre de pays qui ont cette capacité, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie. Ce qui veut dire que, grosso modo, il y a certains pays qui vont bénéficier de retombées économiques particulièrement importantes et d'autres moins. Donc, finalement, sur cette question des enjeux de défense, bon, la règle, de toutes les manières, elle s'adapte. Elle existe pour éviter des comportements, ce qu'on appelle, nous, des dépenses discrétionnaires excessives. Mais quand les dépenses, elles, sont justifiées, et on l'a vu dans le cas de la crise sanitaire, dans le cas des enjeux de défense également, c'est tout à fait compatible avec cette orthodoxie budgétaire. Et la position allemande, pour le coup, elle va clairement dans ce sens-là.
Laurent Varlouzet, c'est aussi pour cela que les règles sont acceptées. C'est parce qu'on sait qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on peut effectivement prendre la tangente. Et c'est aussi ça qui explique que la construction européenne est aboutie 75 ans plus tard. Et c'est cette idée qu'on sait qu'il y a des dogmes, mais on sait aussi qu'il y a une forme de compréhension de ce qui se passe, de la réalité aussi économique de chacun des pays.
Oui, c'est ce que disait Mathieu. Finalement, on se met d'accord sur des principes, alors qu'ils sont un peu différents en fonction des pays, mais globalement, les règles ensuite, l'important c'est qu'il y ait des règles en prix. Après, on peut les interpréter. C'est aussi la vision française, parce que la déclaration Schuman, voilà, Monnet l'a fait, parce que on est sous pression américaine. Les Américains, les Britanniques veulent libérer l'économie allemande des tutelles de l'occupation. Or, là, on est très inquiet parce que la production allemande d'acier commence à dépasser la production française d'acier. Et on se dit que si les Allemands font ça, c'est aussi parce qu'ils ont un avantage. Ils ont du charbon. Nous, on n'a pas. Ils ont un charbon à coque. Et comme il y a des liens entre les entreprises charbonnières et les entreprises sidérurgiques, ça crée un avantage pour ces entreprises sidérurgiques. Et donc, c'est pour ça que au fond de la déclaration Schuman et donc du plan qu'a rédigé Monnet, c'est l'idée qu'on va faire des règles communes, et notamment obliger les Allemands à vendre leur charbon à coque au même prix aux Français et aux Allemands. Alors, c'est un peu technique, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on a l'autorité commune derrière dont parlait Monnet. C'est pour qu'on soit sûr qu'il y ait les mêmes règles pour tout le monde. Et dans les archives, on trouve beaucoup cette idée des Français de dire « Oui, mais bon, nous aussi, on aimerait bien être exportateurs comme les Allemands. » Et en fait, si les Allemands exportent, c'est parce qu'ils ne respectent pas bien les règles. Donc, on va faire des règles européennes pour être sûr qu'on soit tous à égalité. Bon. Et pour les règles budgétaires, bon, là, il y a quand même, comme le disait Mathieu, une empreinte allemande assez forte.
C'est ce que j'allais vous dire.
Avec une vision assez étroite pendant la crise de l'euro, dont a beaucoup souffert la Grèce, et qui maintenant se détend. Mais là aussi, il y a différentes interprétations, parce que l'AFD allemande, dont on parle beaucoup, là, à l'origine, est née d'une protestation contre le fait que, selon eux, les règles budgétaires, justement, avaient été bafouées, et qu'on était beaucoup trop laxistes. Ils nous reprochaient, nous, la France, d'avoir jamais respecté la règle des 3%. Ou quasiment jamais. Donc vous voyez, il y a différentes interprétations de la sévérité des règles. Mais voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, on est plus souple qu'on l'a été pendant la crise de l'euro.
On est plus souple qu'on l'a été en temps de crise. Mathieu Dubois, pour terminer cette émission, une question très très vaste, mais à laquelle il faut répondre parce que c'est lié aussi à du ressenti, à de l'imaginaire très lié aussi à l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que, de fait, le libéralisme allemand, en tout cas l'économie sociale de marché telle qu'elle s'est incarnée en Allemagne, a triomphé aujourd'hui en termes de doctrine économique au sein de l'Union européenne?
Je ne dirais pas qu'elle a triomphé, parce que triompher, ça voudrait dire
qu'elle,
fait,
qu'elle
soit dominante dans un certain nombre de textes, dans le compromis. Hein, moi, j'ai parlé dans le livre d'un compromis déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre de ce compromis dans les années 80-90, grosso modo, au moment clé qui est quand même celui aussi du traité de Maastricht. Donc, de fait, un grand nombre de règles, en particulier, qui ont été fixées à ce moment-là, budgétaires, de fonctionnement en fait de la zone euro sont liés à cette idée qui est très présente en Allemagne qu'il faut absolument maintenir un certain nombre de principes de stabilité parce que sinon on va avoir des politiques non pas qui ont été faites vues dans les années 30 sous Hitler dans les années 20 au moment de l'hyperinflation et donc c'est la raison pour laquelle en fait ce nouveau gouvernement allemand aussi qui va maintenant prendre ses fonctions
Je crois pas qu'il va finalement changer radicalement l'ensemble de la donne, mais il va vouloir maintenir ses principes tout en réformant un certain nombre d'éléments de cadre et de règles.
Et par ailleurs, Friedrich Merz, donc nouveau chancelier allemand, a été présenté très largement comme un haut représentant en tout cas de l'économie sociale de marché. Nous verrons ce qu'il en est. En tout cas, un immense merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission.